Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Cazenave, j'ai 31 ans. Avec mon mari, on habite Angers. C'est lui d'ailleurs qui va m'aider un peu ce soir à ce que ça se passe bien techniquement. Et on a deux enfants, bientôt trois. Et alors j'ai plusieurs métiers. Je travaille en partie au diocèse d'Angers comme déléguée épiscopale pour les jeunes, c'est-à-dire que je suis dans le conseil de l'évêque, voilà, pour tout ce qui concerne, on va dire, les problématiques de la jeunesse. Mais là, c'est au titre de mon autre métier, qui était de chanteuse, en fait, que je suis là ce soir. En effet, je chante depuis 12 ans, maintenant bientôt, dans un groupe qui s'appelle Glorious. Vous l'avez, du coup, peut-être, ce que j'ai compris, eu en concert pas loin de chez vous. Voilà, qui est un groupe de louanges. Mais je chante aussi dans d'autres formations, voilà, de rassemblements chrétiens, catholiques ou œcuméniques. Alors ce soir, le sujet, voilà, n'est pas nouveau pour vous. On va parler de musique, hein. Je crois que je suis la dernière conférencière à ce sujet. Mais comme disait Philippe, voilà, on va parler du renouveau de la musique catholique et notamment un peu au regard de mon expérience dans ce groupe de louanges. Alors le sujet est très vaste, hein, si on parle du renouveau de la musique chrétienne. Et j'ai pas l'ambition de parler de tout le renouveau de la musique catholique, mais j'aimerais un peu vous en faire découvrir. Alors sûrement vous en connaissez déjà, mais un courant qui s'appelle la worship music, qui est la musique de louange, qui est issue des églises évangéliques américaines et qui continue de pénétrer petit à petit les chants et la musique catholique dans le monde et notamment en France. Alors si je vous en parle ce soir, c'est aussi que voilà, cette rencontre avec cette musique qui a eu lieu dès mon adolescence a eu une influence déterminante dans ma vie, enfin que ce soit de ma vie chrétienne, ma vie de foi, mais aussi dans ma vie professionnelle, parce qu'elle m'a fait quitter notamment mon métier d'urbaniste pour travailler voilà, dans ce domaine de la musique de la louange. Alors c'est un type de musique qui est assez récent, voilà, je vais en faire un peu l'historique, qui date notamment des années 60, et ça peut susciter des réactions assez diverses chez les catholiques, à la fois de l'engouement chez des jeunes et aussi des moins jeunes, mais aussi des réticences, voire du rejet chez d'autres personnes. C'est pour ça qu'il peut être utilisé quelquefois dans les paroisses ou moins, voilà, plus timidement, et notamment dans tout ce qui est destination liturgique, à savoir pour les messes. Je crois que pourtant il y a un véritable enjeu à s'intéresser, voilà, ce renouveau de la musique, à ces courants un peu récents, notamment pour renouveler nos églises, et parce que avant d'être d'abord un type de musique, c'est aussi une prière. Donc j'espère vous partager un peu de cette expérience et de cette découverte ce soir. Alors on va partager l'écran. J'ai fait une présentation. Keynote. Alors, vous verrez, il y aura pas mal d'extraits de morceaux. Donc, en fait, l'idée un peu de ce soir, c'est un peu de vous partager l'histoire de cette musique qu'on appelle la worship music, la musique de louange aux États-Unis chez les évangéliques, et de voir un peu, dans un second temps, la diffusion qu'elle a pu avoir en France chez les catholiques, et les ponts qui ont pu être faits, notamment avec la liturgie. Ensuite, je vous partagerai un peu l'expérience que j'ai eue dans l'église Lyon-Centre, voilà, qui est partie de ce courant de musique pour renouveler son église. Et après, voilà, pour conclure, j'essaierai de vous partager aussi quelques réflexions sur les ouvertures possibles entre ces deux mondes qu'on peut penser quelquefois un peu antagonistes, entre ces courants évangéliques, de la louange et puis de la musique liturgique. Alors, lors de cette présentation, je vais vous faire écouter quelques morceaux. Deux seulement en entier, parce que en fait souvent les morceaux de worship sont très longs, et donc voilà, il y aura un premier notamment qui va durer quand même 8 minutes, et sinon ce sera des extraits assez courts de 1 à 2 minutes, et voilà, nous aurons ensuite un petit temps de questions réponses à la fin. Mais si jamais vous avez peut-être un éclaircissement à demander, peut-être n'hésitez pas à questionner dans le chat, et puis j'essaierai de vous y répondre voilà, du mieux possible. Alors on va commencer, je vais commencer par vous faire écouter un chant. Je vais commencer par vous faire écouter un chant qui s'appelle Oceans, qui est un chant qui a été composé en 2013 par trois compositeurs de l'église Hillsong. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'église Hillsong, c'est une église australienne qui est une méga church évangélique, qui est née en Australie dans les années 70. Et elle a aujourd'hui un impact et un développement mondial, puisqu'elle est installée dans différents pays et même en France, où elle compte aussi 5 églises. Donc le chant que je vais vous montrer, c'est un chant qui a eu un énorme succès, voilà, un gros tube mondial, et très caractéristique, voilà, de cette musique worship, voilà, qui s'inspire, qui est une musique pop, hein. Donc, la version que je vais vous faire écouter, elle date de 2018. Elle a été chantée à la conférence de cette église, qui est la conférence Hillsong, dans un stade d'environ 10 000 personnes. Alors, ça peut sembler être un concert un peu exceptionnel, mais en fait, pour cette église, ça n'a pas grand-chose d'exceptionnel, parce qu'elle vit souvent des rassemblements aussi importants, et que notamment chaque culte hebdomadaire se fait déjà dans des salles énormes d'environ 5 000 personnes. Donc, je vous laisse découvrir cette musique.
Without force, and we walk upon the world.
voilà, première chanson entière que je vous passe, voilà, qui s'appelle Oceans de cette église évangélique. Faut savoir qu'elle a été reprise mondialement, donc non seulement dans les églises évangéliques protestantes, mais aussi dans certaines églises catholiques, avec quelquefois des traductions plus ou moins heureuses de cette chanson, mais en tout cas elle a eu beaucoup de succès. Alors certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu, enfin, qu'il est dommage qu'il n'y ait pas eu la traduction. Alors j'en ai pas forcément trouvé avec cette vidéo en tout cas. Le thème, c'est vraiment le thème de la foi. C'est issu du texte où Pierre rejoint Jésus qui marche sur les eaux. Le Seigneur est là quand notre foi chancelle. Donc c'est vraiment le thème de cette chanson. De Hillsong. Alors on va continuer donc sur une première partie où je vais un peu vous raconter cette émergence de la worship music aux États-Unis. Alors littéralement la worship music, c'est une musique de louange, d'adoration, voilà, qui a pour but de tourner le cœur de l'assemblée vers Dieu, de disposer à se mettre en présence de Dieu, quel que soit le contexte, dans des groupes de prière, chez soi, dans des assemblées dominicale. Alors vous me direz que ça peut définir n'importe quelle musique chrétienne qui a cette visée, hein. Mais ce terme précis de worship music s'est apparu plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle et il est historiquement lié aux églises évangéliques. Aux États-Unis, on parle de worship music, de musique chrétienne contemporaine aussi si on traduit, car ce sont principalement des instruments contemporains qui sont utilisés, à savoir une formation pop-rock avec une basse, de la guitare électrique, une guitare acoustique, de la batterie, des claviers qui sont de plus en plus électroniques. Et de façon additionnelle, exceptionnelle, on peut aussi ajouter d'autres instruments comme des instruments à cordes, mais souvent ce sont des synthétiseurs qui vont remplacer ces sons. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des instruments actuels, qui sont ceux que les gens écoutent à la radio. Voilà, c'est ce que disent notamment certains gros pasteurs évangéliques, et de suivre le style musical actuel dans ses évolutions. Donc en France, on peut parler de pop louange, qui a été un peu dit pour traduire cette worship music, mais ce terme s'est davantage utilisé chez les catholiques et c'est déjà un peu passé parce que de plus ça restreint le genre musical qui est certes d'abord un genre pop, mais qui peut aussi se nourrir comme la pop elle-même de diverses racines telles que le R&B, le blues, le jazz, la soul, et même par moments la musique classique. En tout cas vocalement, chez les chanteurs, ils ont une formation en général plus jazz que lyrique, ce qui est aussi plus utile dans ce style de musique où le rythme, l'utilisation des consonnes, des résonateurs va avoir une importance plus importante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de place qui est faite dans ce courant aux chanteurs qui sont des chanteurs lead plus qu'aux choristes. C'est pourquoi certains, ce qu'on va appeler des worship leaders, des conducteurs de louanges, sont aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon en général des véritables stars. Là, je vous ai passé une chanson avec la jeune femme que vous pouvez voir à gauche, qui est Taya Smith. Et généralement, toutes ces stars de la worship music sont issues ou sont liées à des grosses églises évangéliques. Voilà, elle est liée à l'église Hillsong en Australie. Il y a d'autres stars de la worship américaine qui sont liées à des méga churches américaines comme Bethel ou Elevation Church. En tout cas, ces chanteurs, comme les musiciens, se tiennent dans les cultes sur scène, face à l'assemblée, debout, et les moments de louange ont généralement une grande place dans le culte, notamment avant ou après la prédication. Et ces chanteurs vont conduire la prière, vont aussi prendre la parole, exhorter et faire évoluer le chant d'une manière ou d'une autre. Alors on dit souvent que cette musique est propice à un langage émotionnel plus développé, pour toucher les plus de personnes. Alors personnellement, je crois que l'émotion elle est propre à toute musique, hein, quelle qu'elle soit. Toutefois, je peux comprendre qu'il peut y avoir des caractéristiques propres de la worship qui sont celles de la pop et qui peuvent susciter aussi plus facilement des émotions. Notamment la répétition des boucles d'accords. En pop, on va parler des accords magiques qui sont un peu des accords simples qui tournent dans un ordre un peu précis, d'une palette harmonique qui peut être aussi restreinte. On a l'utilisation des synthés qui peut être assez enveloppantes, des progressions rythmiques, comme vous avez pu entendre sur le morceau, avec des montées progressives de la batterie, voilà, qui est propre à la pop, hein, en fin de morceau, des voix assez réverbérées, des mélodies faciles à chanter par l'assemblée. En tout cas, voilà, on a une structure de ces chants qui est très propre de la structure classique d'un chant pop, à savoir voilà, un couplet, un refrain, un autre couplet, un autre refrain, un pont. Donc là, vous avez pu entendre un pont très très long sur la chanson, et puis voilà, un refrain final. Après, voilà, il va y avoir quelques, je dis c'est une structure, je peux être un peu caricaturale là-dedans, hein, mais c'est une structure qu'on va retrouver dans beaucoup beaucoup de chants de worship. Faut savoir que donc dans ce type de d'église évangélique, c'est souvent aussi ce chant, donc comme dans l'église Hillsong, qui a été à l'origine de l'expansion de certaines églises, et quelquefois et pas l'inverse. Et ça s'accompagne souvent d'une production, en tout cas pour les grosses églises, d'une grosse production d'albums conséquentes qui favorise aussi l'expansion de ces chants, d'où le fait que ça touche un public aussi large. Mais ça a pu aussi apporter certaines critiques, hein. Là, je vous ai mis sur la slide un livre qui s'appelle Selling Worship, qui a été écrit par Pete Ward donc en 2005, donc c'est assez récent, et qui a critiqué notamment tout l'aspect aussi commercial de la production de cette musique qui est censée être d'abord une musique destinée à Dieu. Donc voilà, il y a aussi des revers un peu négatifs à toute cette production des grosses églises de worship. Alors concernant le fond, le thème un peu les thèmes de cette musique, généralement c'est assez simple, hein, c'est des chants qui sont issus de la Bible, des psaumes, avec un accent qui est fort, qui est mis sur les thèmes comme la grâce, la relation personnelle à Dieu, l'errance, le salut, le péché. C'est pour ça que généralement tous ces chants utilisent le toi et le moi beaucoup plus que le nous et le Dieu. On est vraiment dans la relation personnelle. Par ailleurs, il y a un accent fort qui est mis sur l'Esprit Saint, là qui est en lien avec le mouvement pentecôtiste, avec aussi une utilisation importante de l'impératif qui est propre aussi à la demande d'action de l'Esprit Saint dans ces chants. Alors ces chants ont des paroles qui peuvent être très simples, mais pour autant, faut pas accuser de simplisme toutes ces grosses églises et ces chants, car les textes sont de fait quand même de plus en plus travaillés et ne sont généralement pas l'objet d'un seul chanteur, mais aussi de théologiens issus de ces églises. Alors c'est une prière où généralement, dans ces cultes, c'est aussi tout le corps qui est mobilisé, et toutes les paroles sont incarnées par une posture, par des gestes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Alors si je reprends un peu l'histoire de cette musique, donc en fait ce mouvement de la worship music est né à peu près dans les années 60, donc en même temps que finalement la pop, hein, et dans les universités américaines, notamment dans ce qu'on appelait les Christian Unions, pardon pour mon accent, qui étaient des groupes d'étudiants qui accueillaient des prédications, des enseignements bibliques, et qui ont vécu ce qu'on appelle une effusion de l'esprit, c'est-à-dire vraiment une expérience de l'amour de Dieu par l'Esprit Saint, et qui a ravivé un peu le feu de leur foi, et qui a rapproché, ce qui rapproche aussi de l'expérience de la Pentecôte des apôtres. Et donc c'est au travers de cette expérience que des groupes de musique qui ont été marqués par la pop, par ailleurs, se sont mis à jouer, à composer des chants, des chants chrétiens dans un langage populaire. Donc c'est d'abord une expérience toute simple qui s'est fait aussi petit à petit, revendicative, dans le sens où l'idée est venue la volonté en tout cas de rendre le chant religieux dans ces églises beaucoup plus populaire, beaucoup plus accessible et parlant aux générations actuelles par le style. Et d'avoir aussi une production de chants assez conséquente, parce que le fait de composer des chants nouveaux, pour eux, ça dit aussi de l'expérience, quelque chose de l'expérience de la Pentecôte, du fait que Dieu vient faire toute chose nouvelle, nous incite à faire, à composer des chants nouveaux. Alors les églises, elles sont mises petit à petit à importer tous ces chants, hein, qui sont venus des Christian Unions dans leur culte. Et déjà très vite, en fait, dès les années 60, sont sortis des premiers recueils de chants de worship qui ont été publiés dans des maisons d'édition, finalement assez rapidement. Et le mouvement s'est répandu aux États-Unis et aussi plus largement dans le monde anglophone. Et un des premiers groupes s'appelait les Joy Strings, qui a paru dans, même à la télévision britannique, voilà, qui a fait dans les années 60. Alors je vais vous faire écouter un petit extrait voilà, d'une de leurs chansons qui s'appelle Open Secret, voilà, qui est passée voilà, à la BBC dans les années 60. Alors, hop.
It's an open secret, Jesus is mine. It's an open secret, this man is divine. It's an open secret, I want you to know. It's an open secret, I love my Savior so. And you can seek him, find him, share his secret too. Know his loving kindness in everything you do. It's an open secret, I want you to know. It's an open secret, I love my Savior so.
Pardon pour la fin un peu brutale. Donc voilà, alors là c'est vraiment une musique voilà, typique des années 60, du début de la worship, et on peut retrouver vraiment des inspirations de la pop. On entend les Beatles un peu derrière, enfin voilà, toutes les influences qu'ils ont pu avoir dans ces années-là. Donc c'est assez frais. Alors il faut savoir que voilà, tout ça, ça a continué de se développer, et que voilà, environ 20-25 ans plus tard, beaucoup de ces chants ont été connus et diffusés dans le monde entier. Je ne sais pas si vous les connaissez forcément, mais en fait, il y a souvent des grands tubes des années 80. Voilà, alors je cite par exemple Lord, I Lift Your Name on High, c'est Je loue ton nom éternel en français. Alors peut-être que vous l'avez chanté dans des rassemblements œcuméniques, protestants ou même catholiques. Voilà, c'est des chants qui sont arrivés plutôt en France dans les années 90-2000. Voilà, mais qui ont été, voilà, qui ont connu un gros succès. Et tous ces chants ont pu être notamment diffusés grâce à d'importantes maisons d'édition et de production, comme voilà, Maranatha Music ou Vineyard, qui ont exporté et diffusé ce nouveau style de musique, et dont la composition alors n'était plus seulement le fait de groupes, de jeunes, mais aussi d'artistes, voilà, d'artistes solo, et de plus en plus en parallèle d'églises évangéliques. Alors, ouais, je peux vous faire écouter un autre extrait, bah justement, Je loue ton nom éternel. Vous allez peut-être le reconnaître. Là, c'est en anglais. Pardon encore pour cette fin de morceau. Donc là, voilà, on avait tous les sons. Voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu le morceau, si vous le connaissiez déjà, mais on a vraiment les sons un peu typiques des années 80-90 avec des synthés. Donc voilà, assez typiques. Donc il faut savoir qu'avant les années 90, ces chants étaient d'abord chantés en dehors du dimanche, mais petit à petit, dans les églises évangéliques, c'est très vite imposé l'idée que finalement, peu importe le style, du moment que c'était le fait de véritables croyants qui utilisaient ce style pour louer Dieu, pour prier Dieu. Et aujourd'hui, en fait, voilà, aujourd'hui en 2020, ces grosses églises, les grands rassemblements, la diffusion sur Internet des cultes ont finalement achevé d'étendre la worship music et d'en faire une part majeure de la musique chrétienne contemporaine aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous amuser sur YouTube à regarder des cultes, des soirées de prière, des chants. Enfin, il y a énormément de choses qui existent. Alors pourquoi un tel succès ? Alors d'abord, il y a un langage qui est très simple, hein, voilà, qui est très simple, très personnel. Les gens vont se sentir assez concernés par ce qu'ils entendent. Il y a aussi, donc, comme je disais auparavant, une volonté de toucher plus largement dans ces églises des personnes qui arriveraient, qui seraient nouvelles. C'est pour ça qu'on a pu parler d'église du réveil, de la première conversion pour toutes ces églises évangéliques. Et ensuite, il y a aussi un succès qui est dû à leur créativité, voilà, leur effort constant à composer une église comme Hillsong, par exemple, elle va composer jusqu'à un ou deux albums de louanges par an, c'est énorme. Et donc, bah, les gens, forcément, ils attendent, ils sont séduits par toutes ces compositions aussi qui sortent et puis qui enrichissent aussi leur foi. Et enfin, ce qui est aussi alors assez typique, pour le coup, spécifique aux États-Unis, c'est que la frontière entre le monde de la louange, de la worship, et le monde de la pop tout court, en fait, est assez poreux, si bien que aujourd'hui, il y a des gros groupes de worship qui peuvent être des véritables stars en dehors de leurs églises, connus par le commun des mortels. Et inversement, il y a des stars voilà, de la pop qui peuvent être aussi, qui peuvent se convertir par leur proximité avec les églises évangéliques et le dire haut et fort, et ça gêne personne. Hein. Je pense à Justin Bieber, à Kanye West, et ce qui arrive vraiment pas en France. Donc là, voilà, je vais vous faire écouter encore un titre juste assez récent. Donc on est dans la musique chrétienne contemporaine, là on sort un peu de la louange, même si voilà, la chanson s'adresse vraiment directement à Dieu. C'est une chanson qui a été écrite en 2018 par une chanteuse qui s'appelle Lauren Daigle. Elle vient du monde de la soul, vous verrez, vous entendrez à sa voix, elle a plutôt une voix gospel, il y a des références un peu voilà, gospel dans le titre. Je vous laisse découvrir, ça s'appelle You Say.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I
Il faut savoir que ce titre, il a, voilà, c'est vraiment un énorme tube dans la musique chrétienne et au-delà, parce que il est même passé, alors peut-être que vous avez pu déjà l'entendre, mais dans les radios françaises sans problème, sans qu'il puisse d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bon en anglais, mais comprendre ou s'intéresser forcément aux paroles, je pense que les diffuseurs ne savaient pas forcément qu'il passait des titres chrétiens, mais en tout cas, voilà, c'est passé dans les radios françaises sans problème. Alors, je termine cette partie un peu voilà, sur la worship en général, notamment dans le monde anglophone. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à regarder un documentaire qui est assez bien fait, qui s'appelle Let Hope Rise, qui raconte pour le coup comment la musique est devenue constitutive voilà, de l'église Hillsong, hein, qui est vraiment la grosse église australienne de worship music. Si vous voulez vraiment avoir une immersion dans ce que sont les méga churches, ça peut être intéressant de le regarder. Je crois qu'il se trouve sur YouTube sans grande difficulté. Alors il faut savoir qu'en France, cette worship music, elle est assez répandue dans les églises évangéliques. Pas seulement Hillsong, mais aussi d'autres églises parisiennes comme la MLK à Créteil, aussi ailleurs comme la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, mais aussi dans les plus petites églises. Hein. C'est pas seulement une musique de grosses églises, même si là je vous en ai montré beaucoup, mais aussi dans toutes les petites églises évangéliques. Donc non seulement en France, mais aussi au Québec avec des groupes comme Impact ou aussi à La Réunion. Donc en fait, c'est vrai que très souvent dans ces églises, vous allez trouver ces instruments de formation rock, une bonne sono, alors que ça va être pas forcément le cas dans la majorité des églises catholiques. Voilà. Donc c'est intéressant d'aller quand même faire un tour. Alors maintenant, je vais un peu parler, donc dans une deuxième partie, de ce renouveau dans la musique catholique, comment et dans quelle manière la worship music a finalement pénétré en France chez les catholiques. Pour ça, je vais faire un rapide historique à partir des années 60. Ça va peut-être vous parler plus ou moins. Alors, je suis pas spécialiste en théologie de la liturgie, hein, je prétends pas ça, mais c'est vrai qu'on sait que globalement, au cours des siècles, depuis le haut Moyen-Âge et ensuite surtout avec le Concile de Trente, l'Église catholique, elle s'est de plus en plus cléricalisée et ritualisée dans sa liturgie. Il y a eu l'apparition des bréviaires, des missels qui ont cadré de plus en plus la liturgie en Europe chez les chrétiens et pour tendre à un certain universalisme. Alors ceci pour diverses raisons, hein, notamment par peur des hérésies, mais aussi pour avoir un langage universel. Pour le coup, il y a une scission dans la liturgie qui s'est vraiment faite avec les protestants à la Réforme, notamment parce qu'ils ont utilisé la langue vernaculaire alors que nous, on est resté au latin jusqu'à Vatican II. Donc, ce qui fait qu'il y a un fossé qui s'est aussi accentué avec ces églises issues de la Réforme et plus tard avec les évangéliques à partir des 19e et 20e siècles. Donc, chez les catholiques, on a vraiment l'importance du cadre, de l'universalisme, de l'utilisation du latin jusque très tard. Mais une ouverture s'est dessinée avec Vatican II, qui a été quand même un vrai bouleversement ecclésial. En 1962, il y a eu ce concile qui est un énorme événement dans l'histoire de l'Église catholique et dont je pense on n'a pas fini de saisir véritablement l'ampleur et le sens. Alors quels sont les gros points qui peuvent un peu nous intéresser pour ce sujet? C'est tout d'abord le fait que c'est le peuple de Dieu qui va être remis, à l'honneur dans Vatican II. L'Église, elle va être repensée non pas d'abord de manière hiérarchique, comme c'était le cas avant, mais à partir de l'égale dignité de tous les enfants de Dieu. On va parler de sacerdoce commun, de tous les baptisés, qui est un terme plus ecclésiologique. L'idée, en fait, que chacun peut prendre sa part dans l'annonce de l'Évangile, quel que soit son statut, même s'il est laïque, pas seulement clair. Et donc, c'est l'Église à la fois comme peuple, comme corps, qui est réaffirmée dans Vatican II. Et il y a aussi dans Vatican II une prise de conscience du décalage entre l'Église et le monde moderne, et donc une volonté de repenser ses rapports, et aussi l'évangélisation, toute la pastorale. Donc c'est dans cette optique que la liturgie est repensée dans la constitution qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, avec notamment plusieurs points de changement importants dans la liturgie catholique, à savoir tout d'abord la volonté d'une participation active des fidèles, qui est quelque chose, déjà c'était une préoccupation de Pie XII dans les années 40, mais elle est vraiment écrite noir sur blanc, en voulant favoriser notamment les psaumes, les cantiques, les attitudes corporelles. C'est évidemment l'autorisation de l'utilisation de la langue vernaculaire, fortement attendue chez les chrétiens, et dont ils se sont emparés sûrement plus vite que ce que l'Église avait pensé. Je pense qu'elle a été un peu dépassée par ça aussi. Et aussi toute une réorganisation des textes et des rites pour mettre au cœur les trésors bibliques et notamment la parole de Dieu. Alors dans cette constitution, il y a aussi des points, importants qui sont soulevés concernant la place de la musique. On réaffirme la finalité de la musique, qui est à la fois la gloire de Dieu et puis la sanctification du peuple. Et pour ça, on va mettre On va dire que cette constitution a certaines prescriptions. Il faut que la musique encourage la participation des fidèles, qu'elle s'accorde aussi quand même avec l'esprit de l'action liturgique. Mais concernant le style, et c'est pour ça que ça rejoint aussi un peu les musiques actuelles, il est dit que l'Église approuve toutes les formes d'art véritable si elles sont dotées de qualités requises et qu'elle les admet pour le culte divin. D'où le fait que le chant religieux populaire soit intelligemment favorisé pour que les voix des fidèles se fassent entendre. Donc évidemment, la Constitution dit que l'orgue reste un instrument privilégié, mais la réforme ne souhaite pas pour autant exclure tout autre instrument, du moment qu'il puisse être adapté à un usage sacré. Alors concernant la composition, il est juste dit que les musiciens doivent être imprégnés de l'esprit chrétien, qui vont composer des mélodies qui puissent à la fois toucher les grandes assemblées comme les petites, et qu'ils puissent évidemment des textes tirés de l'écriture directement et de la tradition, ce qui est pas ça c'est réaffirmé. Donc de fait, après Vatican II, il va y avoir dans les années qui vont suivre une sorte des expérimentations qui vont avoir lieu pour essayer de retrouver le dialogue avec des croyants qui pratiquent de moins en moins. Donc je vais vous en parler à partir des années 60. Donc il faut vraiment imaginer le chamboulement qu'a été Vatican II. Il y a d'abord eu des enquêtes et des articles sur l'utilisation notamment de la musique noire américaine dans la liturgie, avec des auteurs prêtres qui pensaient notamment qu'une musique jazz ou gospel permettrait d'attirer la jeunesse à l'église pour faire prier les jeunes à leur rythme. Et cette idée est d'abord, en tout cas dans un premier temps, vraiment relayée par le Centre national de la pastorale liturgique, qui publie des notes en faveur des messes des jeunes et qui utiliserait aussi la musique, d'origine noire américaine. Et c'est dans cette lancée qu'il y a des expérimentations qui ont lieu, notamment celle de l'aumônier des artistes qui s'appelle le père De Fatto, qui était alors c'est intéressant parce que c'était avant d'être prêtre, c'était un contrebassiste et il a joué avec des artistes comme Sidney Bechet ou Bill Coleman. Et donc il va lancer un groupe de gospel qui s'appelle les Pax Quartet. Donc je vais vous faire écouter un extrait.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Et éternel est son amour.
Rendez grâce au Seigneur le Dieu des dieux.
Et éternel est son amour.
Rendez grâce au Seigneur le Seigneur.
Et éternel est son amour. Et éternel est son amour.
Puis seul a fait les merveilles.
Éternel est son amour.
Il a permis la terre sur les eaux.
Éternel est son amour. Éternel est son amour.
Voilà un petit extrait de Pax Quartet. Donc on peut entendre un peu l'influence aussi des sons des années 60, de la culture à la fois gospel ou aussi un peu yéyé. Alors c'est intéressant de comprendre les arguments un peu de ces expérimentateurs. L'idée c'est vraiment à la suite de Vatican II de faire rencontrer l'Église et la culture de masse pour parler le langage de la jeunesse, mais aussi parce que la foi se vit aussi avec le corps, donc il y a des assemblées plus rythmées. Il y a aussi l'idée que le sacré vient pas d'abord d'une perfection musicale, mais vient d'abord de la démarche en fait, de la participation des gens qui vivent en communauté. Donc en fait, c'est l'utilisation, et donc le fait d'utiliser en fait cette musique rythmée qui permet une large participation des fidèles, c'est pour eux, un signe du sacré, un enrichissement de la foi, et pas seulement la volonté de répondre à une culture de masse. Voilà, on a eu ces expérimentations. Néanmoins, on a donc ça c'est notamment une petite photo du père Guy de Fatto. Et mais néanmoins, assez vite, la hiérarchie catholique et les milieux plus traditionnalistes vont avoir un certain recul face à ces expérimentations. Il y a tout d'abord Rome qui envoie par sa par son concilium une lettre aux conférences épiscopales qui explique notamment que tout ce qui sent le profane doit être proscrit du sanctuaire. Et à ce titre, notamment la musique jazz qui ne peut pas faire partie d'un répertoire de musique destiné au culte. Donc c'est un coup dur. Mais en même temps, voilà. Donc même si Rome dit ça, voilà, les catholiques ne sont pas forcément d'accord, puisque notamment dans un gros congrès international de musique sacrée qui a eu lieu aux États-Unis en 1966, il y avait voilà, ces divisions entre, pour le coup, les délégués américains qui étaient favorables à l'utilisation du jazz, de la pop dans la liturgie, et puis les Européens qui étaient farouchement opposés. Donc on voit qu'il y a derrière aussi ces arguments, tout un problème culturel. Mais voilà, Rome persiste et puis signe un peu cette interdiction de tout ce qui concerne, enfin tout ce qui sent la musique profane dans l'action liturgique. Donc même s'il y a eu cette expérience voilà des Gospel Nights avec le père de Fato qui était d'ailleurs au début validé par le diocèse de Paris, très vite ça va être on va dire que toutes ces expériences n'auront plus l'aval des autorités ecclésiastiques voilà et notamment des milieux tradis hein, qui vont manifester aussi contre cette musique et pour qui notamment le jazz ne peut atteindre, voilà, ne peut rentrer en contact avec le divin, contrairement à d'autres musiques liturgiques. Il y a aussi une critique aussi du lien de cette musique avec les expressions cultuelles protestantes, hein, à cette époque en tout cas. Donc, ce qui fait que les messes plutôt jazz gospel vont, on va dire, pas disparaître complètement, mais en tout cas être freinées dans les années 70. Mais malgré tout, voilà, ça, malgré tout, ça bouge dans les années 80. Du fait, en fait, d'une nécessité, c'est que, tout simplement, les messes en langue française se développent, se sont imposées dans la pratique, et donc il faut bien composer des chants. Alors, on va avoir différents types de compositions. D'une part, des chants en français qui sont apparus dans les églises à la fin des années 70. Alors, de type chansons françaises, voilà, avec des compositeurs comme Patrick Richard, qui a fait le psaume de la création, Laurent Gibowski, et surtout Jean-Claude Giannada. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, sûrement, il a composé des titres comme « Qu'il est formidable d'aimer »,« Rêve d'un monde »,« Trouver dans ma vie ta présence », voilà, dans la fin des années 70, qui sont vraiment plutôt de type chanson française. Alors, je vais moins développer toutes ces compositions parce que d'une part, je les connais moins bien et que c'est moins en lien avec la musique, voilà, avec le mouvement évangélique dont je parlais par ailleurs. Donc, il y a eu toute cette créativité, donc ces chants qui sont restés et qui restent, enfin, moins maintenant, en tout cas quand j'étais petite, il y avait encore tous ces chants, voilà, qui ont quand même fortement marqué l'Église catholique. Et d'autre part, on va avoir une forte créativité qui s'est emparée des communautés nouvelles charismatiques qui ont émergé dans les années 70. Donc, par exemple, l'Emmanuel, le Chemin Neuf, les Béatitudes. Et donc, si je prends l'exemple de la communauté de l'Emmanuel, c'est intéressant de voir un peu leur parcours et la démarche musicale qui a été la leur parce qu'elle est directement en lien avec ces musiques nord-américaines. En fait, ils ont démarré par un petit groupe de prière qui est parti aux États-Unis pour découvrir les mouvements charismatiques. Et ces personnes ont fait une expérience d'effusion de l'esprit et donc ont fondé un groupe et sont reparties ensuite aux États-Unis avec des étudiants pour leur faire connaître cette expérience. Et alors, les premiers chants donc, qui vont être utilisés dans la communauté de l'Emmanuel sont d'abord des chants qui venaient des États-Unis, qui ont été traduits en français, souvent des chants très simples hein, qui expriment la parole de Dieu, la rencontre. De l'amour de Dieu. Donc, on n'est pas dans des chants, contrairement à ceux dont je parlais plus haut, qui laissent place à des questions de l'homme, comme ceux composés par, voilà, plutôt Giannada ou Gibowski, mais dans des chants, comme les chants très évangéliques, qui disent des affirmations, l'affirmation du kérigme, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et donc, c'est dans un second temps que la communauté de l'Emmanuel s'est mise à composer eux-mêmes à partir, enfin sur le même modèle, on va dire, après, c'est pas tout à fait pareil, vous entendrez, mais de ce que faisaient les protestants et de façon aussi très kérigmatique. Donc il y a eu des chants comme voilà, Debout resplendis, Je t'exalte, roi mon Dieu, qui étaient tournés vraiment vers le besoin du groupe de prière, facile à chanter, et l'idée c'était vraiment que les assemblées soient participatives. Et ils ont terminé en fait cette expérience par la rencontre avec avec Gouze, voilà, qui est un compositeur dominicain, hein, qui est à l'abbaye Sylvanès, qui a été très inspiré par la liturgie byzantine monacale, mais aussi par le grégorien et les chorales protestantes. Et donc ils ont reconnu dans la communauté d'Emmanuel, dans cette expérience liturgique avec Gouze, la même expérience qu'ils ont vécue aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'ils ont rapporté de toute cette rencontre-là, des hymnes liturgiques, notamment byzantines, et que la liturgie a pris de plus en plus de place dans la vie de la communauté. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a la communauté de l'Emmanuel, elle est très connue donc par ses chants, mais aussi surtout par ses ordinaires de messe liturgiques qui sont repris dans beaucoup de paroisses. Alors, est-ce que j'ai encore un peu le temps? Je vais vous faire écouter un petit extrait, voilà, des débuts, même si là c'est plutôt les années 90, mais des compositions de l'Emmanuel. Un petit extrait des productions d'Emmanuel. Alors, c'est beaucoup plus simple hein, que ce qu'on a écouté avant dans la musique américaine. On est vraiment sur des chants d'assemblée. En tout cas, toujours est-il que petit à petit, ce qui est intéressant dans leur travail, c'est qu'il y a eu un travail croissant qui s'est fait avec la pastorale liturgique en France. Et notamment, au début, les diocèses ou le national a pu regarder ces chants avec un peu, de condescendance, déjà parce qu'ils étaient écrits par des laïcs et pas par des clercs, et ensuite parce qu'ils ne correspondaient pas forcément à certains codes de la composition. Mais petit à petit, il va y avoir un travail qui va être fait. À la fois, les compositeurs de l'Emmanuel vont être, accompagnés par la pastorale liturgique, et en même temps, ils vont faire aussi évoluer un peu les codes. Dans les années, évidemment, l'Emmanuel a connu une grosse diffusion par ses sessions, par ses paroisses, de tous ses chants. Dans les années 90-2000, on a un changement de génération hein, dont je fais partie, et c'est là vraiment que la musique évangélique elle apparaît aussi plus franchement en France, la musique pop, notamment au travers de recueils de chants pour les jeunes comme ceux de Jeunesse en Mission, qui sont des recueils protestants, mais aussi surtout par la découverte des méga-churches évangéliques par les vidéos en fait. Faut dire que l'industrie du CD en plus elle s'est vraiment développée et qu'en France on a pu apprendre ces chants qui ont été traduits dans des camps de jeunes catholiques, des mouvements comme Annuncio, Jeunesse 2000 et dans les groupes de prière. Moi c'est vraiment là, 15 ans hein, dans les années 2000, que j'ai rencontré toute cette worship américaine, et alors que mes parents étaient vraiment dans les communautés de charismatique avec des chants de l'Emmanuel, moi j'ai écouté autre chose, et dans tous ces chants notamment d'Hillsong, ça a rejoint aussi tout l'univers pop que j'écoutais par ailleurs, donc ça m'a beaucoup touchée. Et en parallèle de ça, chez les évangéliques il y a aussi des groupes de louanges qui ont émergé dans les années 90, notamment EXO, et qui ont composé beaucoup en français. C'est des chants vraiment très bien écrits. Je voulais vous passer un extrait mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Donc je vous invite vraiment à écouter. Et ils ont eu beaucoup de diffusion à la fois chez les évangéliques et chez les catholiques. Hop. Et c'est à partir des années 2000 que chez les catholiques, en fait, il y a des compositions plutôt inspirées de la worship américaine qui arrivent, et notamment par Glorious, voilà, donc, que j'ai rejoint plus tard, mais qui sont d'abord trois frères qui viennent de Valence, qui ont été beaucoup inspirés par, par cette musique américaine, par les communautés nouvelles et aussi par EXO, dont je parlais juste avant, et qui ont été produits par une maison d'édition qui s'appelle Rejoice, hein, qui est une maison de disques versaillaise, qui ont sorti un premier album en 2002 et qui ont connu un succès un peu inattendu. C'était un peu un ovni dans le paysage catholique. Voilà, ils ont tout de suite parlé de leur style comme de la pop louange, qui était un peu une traduction de la worship music. C'est aussi dans ces années 90 qu'a lieu le festival de Pâques avec à Chartres, avec qui rassemble beaucoup d'artistes chrétiens, catholiques comme protestants. Et dans les années 2010, petit à petit, de plus en plus de groupes voilà, vont apparaître et se professionnaliser à la suite de Glorious dans le paysage catholique. Voilà, Open, Praise, Be Witness, je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, voilà, qui vont sortir des CD, des titres. Certains vont en vivre aussi professionnellement. Il y a même une école qui s'appelle l'école Pierre qui a été créée à Lyon, voilà, pour former des jeunes à la louange et à la communication dans l'église et qui s'inspire clairement voilà, des églises évangéliques. Et donc, voilà, en fait, la présence de la worship music s'est faite vraiment de plus en plus avec, voilà, par les réseaux sociaux et a touché beaucoup de jeunes. Alors, c'est intéressant, si j'ai le temps à la fin de la conférence, je vous passerai un extrait, mais de montrer qu'il y a eu aussi beaucoup plus de ponts qui ont été faits entre les catholiques et les évangéliques voilà, par cette musique. Notamment assez récemment, je ne sais pas si vous avez pu entendre un chant qui s'appelle La Bénédiction, hein, The Blessing, qui est d'abord un chant qui a été composé par une église évangélique américaine, Elevation Church, et qui est sorti sur les réseaux début mars 2020. Mais tout de suite, donc juste avant le confinement, ce chant a été repris par des églises anglaises, en fait. Qui ont repris ces chants en faisant chanter différents chanteurs à la fois protestants, anglicans, catholiques, pour voilà encourager les gens pendant cette période de confinement. Et finalement, cette reprise, elle a fait des petits, puisque dans le monde ensuite, c'est 31 pays ou ensemble de pays qui ont repris cette chanson. Notamment en France, hein, moi j'y ai participé. C'est des centaines, voilà, des centaines d'églises protestantes et catholiques qui ont été unies pour chanter cette chanson. Donc, il existe sur YouTube des centaines voilà, de versions de ce chant. Il y a même une version, ça a même dépassé le milieu chrétien, parce qu'il y a même une version juive de la chanson. C'est pour dire que ce tube de worship américaine a fédéré vraiment au-delà, beaucoup plus au-delà des chrétiens. Donc, si à la toute fin de la conférence, si on a encore un peu de temps, je vous montrerai bien voilà, un morceau... à la fois ce morceau et puis c'est une reprise par exemple indienne de ce morceau. En tout cas, hop, là, c'est hop, je passe. En tout cas, voilà, c'est voilà, même si la worship music c'est aujourd'hui un courant, on va dire, qui existe dans la jeunesse catholique, c'est pas du tout le renouveau, enfin, on va dire, c'est pas le tout du renouveau catholique, parce qu'on peut pas dire que ce soit aussi la préférence de tous les jeunes catholiques en France. Il y a également chez d'autres un désir de formation à la musique liturgique dans des voies, on va dire, un peu plus traditionnelles, notamment autour du chant polyphonique. C'est comme ça que s'est monté un rassemblement qui s'appelle Ecclesia Cantique dans les années... Enfin, je crois que ça a démarré en 2017, hein, donc c'est assez récent, et qui rassemble des étudiants catholiques, plutôt de centre-ville, hein, voilà, et qui reprennent, voilà, qui vont aussi chanter à la fois du grégorien, aussi quelquefois des chants de louange, mais de manière beaucoup plus traditionnelle, chorale. Donc ça, c'est voilà, c'est un autre courant qui peut exister dans la musique catholique chez les jeunes aujourd'hui. Mais surtout, si je note une différence majeure aujourd'hui entre dans la culture catholique par rapport au monde protestant, c'est aussi la manière dont les laïcs vont s'autoriser à développer leurs talents musicaux. Voilà, alors que chez les protestants, alors je caricature peut-être, hein, mais notamment chez les évangéliques, ces talents vont pouvoir être considérés comme un appel et donc la possibilité de vouloir en vivre. Ce n'est pas le cas, enfin c'est rarement le cas chez les catholiques, où la musique reste quand même beaucoup un loisir et pas d'abord un métier, sûrement pas un appel. On a une vision de l'appel qui est d'abord une vision vocationnelle au sens strict et institutionnel, voilà, cléricale, religieuse. Et donc, voilà, on a aussi, on va dire, ça peut expliquer le fait qu'il y ait beaucoup moins de groupes de louanges professionnels chez les catholiques, et que c'est aussi très difficile pour des cathos d'envisager de mettre un budget musique dans une paroisse, alors que dans des églises évangéliques, ça fait partie des investissements les premiers. Mais néanmoins, et petite transition, certains font figure d'exception dans le paysage catholique liturgique, et c'est l'église au centre. Donc c'est pour ça que j'arrive à ma dernière partie. Donc je vais vous présenter voilà, un peu cette expérience de Lyon-Centre, qui est une réalité musicale et paroissiale. Et là, je vais vous faire écouter voilà, le Notre Père, qui est un titre de Glorious, enfin chanté avec cette église. Voilà, donc là, je vais vous passer le titre en entier. Donc vous allez aussi pouvoir m'entendre. Alors, hop, je lance.
C'est à toi qu'appartient le
Hop. Donc voilà Notre Père qui a un clip de Glorious, voilà, qui est son clip le plus vu, hein, et qui est certainement aussi la chanson de Glorious qui a été le plus reprise dans les paroisses, étant donné aussi bah, voilà, la dimension liturgique du chant. Elle a été composée en 2014, et il a été tourné dans l'église Lyon-Centre, dans le chœur, avec notamment les jeunes de la paroisse. Alors j'ai développé un peu voilà, tout à l'heure l'histoire de Glorious, qui sont trois jeunes frères donc, voilà, qui ont composé des chants de louange dans les années 2000 et qui ont connu un succès voilà, dans le milieu catholique qui les a très vite finalement assez dépassés. Hein. Donc à la base, ils ont reçu un appel à mettre leur talent au service du Christ, et d'une certaine manière, leur succès les a confirmés dans cet appel à composer des chants nouveaux pour les assemblées et à mettre aussi plus de joie dans les églises. Donc ils ont composé plusieurs albums de louanges en 2006, en 2007, et à partir de 2008, en fait, ils rencontrent voilà, un jeune prêtre lyonnais désireux de faire bouger sa paroisse, et ils découvrent un peu ensemble les grosses, voilà, les méga churches évangéliques, et c'est un peu le choc de voir ces milliers de chrétiens rassemblés, prier, alors qu'on constate par ailleurs chez les catholiques la désertion des jeunes dans les assemblées de France. Et donc ils décident de continuer le ministère de Glorious, mais en plus de lancer en parallèle un groupe de prière inspiré de la worship music à Lyon. Et c'est là que moi je les rencontre personnellement en 2009 et que j'intègre le groupe. Je connais alors un peu toutes ces musiques américaines. Je chante beaucoup dans des week-ends de jeunes qui utilisent aussi ces chants venus des États-Unis, mais plutôt dans des moments d'adoration. Et je suis alors quelqu'un d'assez timide et réservé. Et puis je pense, enfin, rien ne me prédestinait à louer de cette manière face aux gens, voilà, sur scène. Donc Lyon Centre naît vraiment de cette vision de réveiller les cœurs et de faire redécouvrir la foi et la louange aux jeunes et moins jeunes. Voilà, ça a lieu dans une chapelle qui est attenante à l'église principale et qui a totalement été redécorée pour l'occasion, avec des pendrillons pour que l'acoustique soit bonne, une scène, des lumières, tout un système son. Et en fait, c'est d'abord un groupe de prière qui a lieu tous les jeudis soirs et qui connaît un succès dès son lancement avec environ 300 jeunes, voilà, avec un schéma de veillée assez proche des concerts de Glorious. L'idée, c'est vraiment d'avoir une louange accessible, voilà, des jeunes croyants, mais aussi moins croyants qui ont envie de redécouvrir la foi et la prière d'une manière un peu nouvelle. Donc, tout autour de ces soirées, il y a tout un staff de jeunes qui sont au service. Et je découvre moi aussi une manière de me mettre au service et de chanter qui est alors complètement nouvelle pour moi. Voilà, l'idée de, à la manière aussi des protestants évangéliques, mais d'accueillir un peu ce don que Dieu a mis en moi de manière assez simple, qui est celui de faire prier les gens par ma voix, l'idée de le développer, de le mettre au service, de prier debout face aux gens et de laisser pas seulement ma voix, mais tout mon corps, mon attitude de prière porter les gens aussi. Et donc, justement aussi de travailler un ajustement nécessaire entre ce fait d'être exposé sur scène et puis et le culte qui est d'abord premier rendu à Dieu. Donc ça m'a aussi aidé à prier de manière plus spontanée, à voix haute, avec des paroles simples de bénédiction, voilà, alors qu'avant je priais surtout de manière, on va dire, récitée, quoi. Le projet connaît ensuite, voilà, c'est un petit problème, voilà, une autre étape en 2011, puisque à ce moment-là, c'est le cardinal Barbarin, alors, voilà, qui est cardinal Lyon à ce moment-là, qui va nommer le père David Gréa, qui était alors responsable qui était en lien avec ce groupe de prière, et qui va le nommer à Sainte-Blandine, qui est une paroisse du cœur de la presqu'île lyonnaise, dans le quartier de Confluence, un quartier qui est anciennement un quartier industriel, beaucoup moins chic que l'autre à second arrondissement lyonnais, moins prisé des Lyosais, mais avec un véritable potentiel urbanistique. Et d'une certaine manière, pour un nouveau quartier, c'est l'occasion aussi d'avoir une nouvelle pastorale. Et donc, Sainte-Blandine, c'est d'abord une paroisse assez vieillissante à ce moment-là. Elle rassemble une centaine de paroissiens plutôt âgés. Et les équipes se font assez rares. Et donc toute une équipe voilà, un peu nouvelle qui mêle à la fois des paroissiens mais aussi un staff de Lyon Centre se réunit pour retravailler au renouvellement de cette paroisse. Une équipe qui s'est inspirée aussi beaucoup de l'extérieur, des églises américaines. Voilà, on est parti visiter l'église de Saddleback aux États-Unis, d'Hillsong à Londres, des HTB à Londres aussi. C'est l'église qui a monté les parcours Alpha. Et voilà, cette équipe s'est aussi mise à prier pour savoir quelle était la vocation de cette communauté, de la communauté à Sainte-Blandine. Là aussi, c'est une expérience assez nouvelle pour une paroisse. Même si depuis quelques années, l'idée d'avoir une vision paroissiale pour les catholiques, ça se développe, mais c'est quand même quelque chose, on va dire, d'un peu nouveau que le simple fait de simplement faire tourner la boutique, quoi, si j'exagère un peu. Bon, l'idée, c'est vraiment de chercher avant tout comment Dieu appelle et inspire une église avant de, voilà, d'entreprendre 10 000 activités paroissiales. Et parmi les axes qui ont été choisis pour la paroisse, il y a la louange qui était déjà à la base de Lyon Centre. Bon, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la joie dans la communauté, la joie et l'adoration, de faire des assemblées de chrétiens joyeux. Et ce qui était déterminant dans le choix des chants, c'est le fait que l'assemblée puisse chanter de tout son cœur. Donc ça a permis de rejoindre notamment des chrétiens qui avaient délaissé la foi, renoncé à leur pratique spirituelle. Tout ça par le renouveau des chants, des rythmes, qui a été aussi essentiel pour faire venir des personnes qui avaient été beaucoup rebutées par la vieillesse des chants dans l'église catholique. Donc l'idée, c'était pas de faire une messe des jeunes, hein, c'est souvent la solution d'ailleurs qu'on donne dans l'église pour intégrer un public jeune. On leur dit, on va vous faire une messe des jeunes, on va vous faire une messe pour vous une fois par mois. Voilà, l'idée, c'était pas du tout de faire ça, mais de faire communauté ensemble, jeunes et vieux, et de se questionner vraiment sur ce qu'on veut faire vivre aux personnes, sur l'importance d'être ensemble dans une église, et de pas faire des groupes distincts, jeunes et vieux. Mais pour ça, le choix a été fait de changer de langage, pas seulement celui des chants de louange, mais dans toute la messe, un langage plus simple, plus direct, qui rejoignait les gens là où ils en sont, qui partait aussi de leurs besoins, et notamment dans la prédication, hein, pas seulement dans la louange, mais dans toutes les adresses, l'accueil qui est fait aux gens en début de messe, la prédication. Donc pour ça, il y a eu un choix d'instruments, des investissements importants, hein, dans tout un système son, dans un écran pour que les gens puissent quitter leur feuille de messe, mais louer de tout leur corps. On a placé, alors là vous le voyez sur l'image que je vous montre, les musiciens dans le chœur directement, donc ce qui a pu il faut un peu choquer, hein. Mais voilà, les musiciens étaient placés dans le chœur de part et d'autre de l'autel, pour conduire la musique. Là, c'est tout récent, je vous montre une image de la messe de Pâques de dimanche dernier. Donc, vous pouvez même regarder le replay sur YouTube, donc ça vous donnera un peu une idée de ce que ça peut être les messes à Lyon Centre. Donc ça s'est accompagné par une église qui a été rendue aussi plus chaleureuse, avec de la moquette. On a construit une mezzanine parce que les gens venant aussi beaucoup, il a fallu accueillir des nouveaux paroissiens. Et il y a eu tout un travail qui a été aussi fait pour accompagner la liturgie en marquant différemment certains temps. Par exemple, le temps de communion est devenu aussi un long temps de prière, spontanée, mais aussi en proposant un temps de prière des frères, enfin ce qu'on appelle prier pour les personnes avec des intentions particulières à la fin de la messe, qui est quelque chose qui se fait pas couramment dans l'église catholique et qui est vraiment une pratique qui a été importée des églises, enfin de ce qu'on a vu dans les églises anglicanes, des parcours Alpha notamment. Donc les points positifs de toute cette expérience, c'est qu'il y a une belle créativité musicale, hein, dans la production de chants. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont été formées à la louange, notamment les jeunes, grâce à ce qu'on a appelé une worship academy qui deviendra ensuite l'école Pierre, des albums nouveaux, et un nombre croissant de personnes qui sont revenues à la messe ou qui ont demandé le baptême. Moi ça m'a appris aussi de ce que c'est qu'être à l'écoute d'une assemblée, qu'animer des chants c'est pas pareil que de faire prier des chants, ça m'a appris que c'était important d'être attentif à ce que les gens vivent, leurs attitudes de prière, d'analyser aussi pourquoi certains chants semblent avoir fonctionné ou parler aux gens, peut-être pas. Ça a été vraiment une vraie école pour moi. C'est pas seulement de l'animation liturgique. Après, il y avait des points évidemment aussi plus difficiles, hein. Ça demandait un engagement vraiment énorme. J'étais responsable pendant plusieurs pendant notamment toute une année des messes du dimanche matin. Donc là, bah voilà, on se retrouve 2-3 heures avant le début de la messe pour tout installer, pour répéter dans la semaine. Voilà, donc ça demande un engagement assez énorme et aussi de travailler, être solide spirituellement parce qu'on est quand même voilà devant. Et c'est une église aussi avec voilà des personnalités, bah vous imaginez bien, assez fortes. Et on n'échappe pas comme ailleurs aux problèmes d'ego des artistes ou aux problèmes de fraternité dans l'église. Donc voilà, c'est d'autant plus quand on est dans une église très exposée et très créative. Donc c'est pour ça que petit à petit, voilà. Alors je sais qu'il y a un travail accompagnement, voilà, qui est en train d'être fait de plus en plus dans cette église, qui a peut-être pas été mesuré au départ et qui commence doucement à l'être, parce que voilà, quand on a beaucoup de personnes engagées, c'est important, quoi. En tout cas, ça a été une belle expérience pour moi et montré aussi qu'un renouveau était possible. Je dis pas que c'est un modèle, la solution, hein, mais en tout cas, c'était voilà, une belle expérience. Donc pour conclure, j'aimerais un peu vous partager voilà, quels seraient peut-être les liens possibles entre voilà, cette musique de louange et puis la liturgie aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, enfin, vous m'avez demandé de parler du renouveau de la musique chrétienne catholique, témoigner de cette expérience que j'avais eue dans une paroisse, et j'espère que j'ai pu vous en faire un peu goûter la saveur. Néanmoins, voilà, on constate que quand même ce renouveau, même s'il pénètre un peu la jeunesse dans tout ce qu'elle va écouter, dans les rassemblements, dans les assemblées dominicales en France, chez les catholiques, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a certes des chants, voilà, des communautés nouvelles comme l'Emmanuel qui se diffusent, certains de Glorious, notamment ceux qui correspondent à des moments liturgiques, mais voilà, tout ça fait encore figure, Lyon-Centre fait vraiment figure d'exception, comme d'autres paroisses aussi confiées au chemin neuf, notamment. Ou des paroisses qui veulent aussi peut-être changer un peu leur manière de faire, leur vision. Alors Lyon-Centre a par ailleurs bénéficié de Glorious, hein, d'une équipe vraiment active, de talents musicaux, ce qui a permis d'avoir des fruits rapidement. Mais le changement est certainement beaucoup plus difficile dans d'autres paroisses qui souhaitent entrer dans cette dynamique. Voilà, d'une part, parce que il y a une réalité en France, c'est que voilà, la population catholique est souvent aussi âgée, les équipes liturgiques plus âgées, quelquefois réfractaires au changement, et aussi on a des paroisses, notamment rurales, de plus en plus pauvres en ressources humaines et financières. Donc c'est pas un scoop que de dire que l'Église aujourd'hui traverse une crise, hein, une crise assez globale, et donc le renouveau, il émerge, voilà, dans certains lieux, et puis mais en même temps il y a voilà, il y a toute une, comment dire, une situation globale qui est aussi quand même assez lourde. Alors est-ce qu'il serait voilà, possible de concilier louange et liturgie? Alors c'est vrai que le domaine de la liturgie, c'est un domaine extrêmement sensible chez les catholiques. Je dirais même quelquefois un peu hautain. C'est vrai que voilà, il y a des arguments qui peuvent être un peu les suivants, l'idée que l'orgue est le seul instrument valable. Il peut y avoir un rejet aussi de la pop musique, hein, non seulement au niveau liturgique, mais au niveau, mais tout court, hein. Benoît XVI, par exemple, a critiqué beaucoup la musique pop, qui pour lui n'est qu'un culte de la banalité. Il a critiqué aussi le rock, qui joue pour lui le rôle d'anticulte, à cause de la foule, des lumières, du rythme. Une critique aussi de la tendance un peu à la starification de tous ces musiciens, hein, de la pop louange. Je dis pas que tous ces arguments sont forcément infondés, mais qu'il faut aller plus loin dans la réflexion, et que souvent ces crispations évoquent aussi des questions de forme, de style musical plus que de fond. Et derrière, il peut y avoir une méconnaissance de ce que c'est le mouvement de la worship music, de son inspiration, de son travail biblique, une culture aussi très occidentaux-centrée, très, très latine. Voilà, une propension aussi dans l'Église, hein, avoir peur du changement, à fonctionner plutôt par prudence, voire par peur, à difficulté aussi à changer ses habitudes, mais aussi une méconnaissance des textes quelquefois conciliaires, parce que voilà, Vatican II, par exemple, n'interdit pas l'usage d'autres instruments que l'orgue, hein, faut juste réfléchir à ce qui est adapté à un usage liturgique et sacré. Donc, pour moi, cette situation nous invite à ouvrir des possibles, et envisager différentes pistes de réflexion. Donc je vous en fais part un peu. Tout d'abord, peut-être on pourrait aussi s'interroger plus largement aujourd'hui sur ce que c'est la musique sacrée. Il faut savoir qu'il y a eu des évolutions très récentes dans les discours des papes, notamment entre Benoît XVI et François. Aujourd'hui, François, il parle moins de musique sacrée que de musique, que de chants liturgiques. Et c'est intéressant d'en interroger vraiment les fondements et les critères. Benoît XVI, d'ailleurs, a développé tous ces fondements dans un livre qui s'appelle « L'esprit de la liturgie ». Et il développe notamment voilà, les critères de toute musique liturgique, qui sont notamment le lien avec la Bible, le fait que les musiciens, que les compositions soient inspirées par l'Esprit Saint, que tous ces chants s'unissent plus largement voilà, au cosmos, à la création, qu'elles nous rejoignent en tant qu'hommes, toute la référence au beau. Et donc c'est intéressant de voir que même lui, qui est quand même plutôt réfractaire à la pop, quand il donne ses arguments pour parler de musique sacrée, il n'est pas question ici de style, mais juste de foi, de communication, de communion, d'inspiration, de lien avec Jésus-Christ. Donc je trouve que ça permet aussi certaines réflexions. Il y a aussi la dimension de l'émotion qui a été remise en avant par le pape François. Hein. Souvent, elle était critiquée par, on va dire, les tenants de la liturgie parce qu'elle pouvait détourner du mystère sacré. Alors que pour lui, pour le pape, elle apparaît vraiment comme un vecteur d'évangélisation. Il parle de faire vibrer le cœur des contemporains, de susciter un climat émotif qui soit opportun pour l'accueil des personnes et l'accueil du mystère qu'on célèbre. Alors évidemment, il y a des émotions qui vont différer d'une culture à l'autre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dépasser l'émotion, d'en voir les fruits, quelles sont les conséquences dans une vie, dans une communauté, quelles réponses positives, en fait, ces émotions ont dans la charité, dans plein d'autres aspects. Quoi. Un des autres points qui peut être intéressant, c'est vraiment l'inculturation. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut, pour la liturgie, une musique à part, distincte, en décalage avec le monde, qui marque vraiment un sacré séparé du profane? Ou est-ce qu'il faut une musique davantage en prise avec la culture, qui sera d'autant plus sacrée qu'elle va ouvrir les contemporains à un possible dialogue avec Dieu, hein, comme c'était un peu le cas dans les années 70, dans les arguments. Donc Jean-Paul II, d'ailleurs, avait défini lui-même l'inculturation comme un phénomène réciproque entre les cultures et puis l'Église. Et donc l'idée, c'est pas seulement chercher des adaptations à des cultures nouvelles, mais c'est d'abord faire entendre aussi faire entendre la parole de Dieu dans une culture nouvelle. Donc, il ne s'agit pas seulement de musique, mais aussi de langage théologique. Comment parler de Dieu à une assemblée aujourd'hui? Comment rejoindre les gens tout en les intégrant dans un espace un peu particulier? Je pense que cet enjeu est d'autant fort aujourd'hui qu'on est vraiment dans une société déchristianisée et que l'Église, quelquefois, peut-être oublie qu'elle l'est, quoi. Et que dans sa liturgie, elle s'adresse aussi à des chrétiens de moins en moins nombreux et peut-être plus difficilement rejoints. Alors ensuite, un autre point, c'est vraiment la participation des fidèles. Donc là, c'est pas nouveau puisque Vatican II a insisté là-dessus. La participation des fidèles, c'est pas évidemment seulement l'extériorisation des chants. Hein. On peut participer rien que par l'écoute. Mais je crois vraiment que quand les gens chantent dans une assemblée de tout leur cœur, on a aussi le témoignage d'une assemblée vivante qui justement a écouté et a reçu dans son cœur la parole de Dieu. Et ça n'enlève rien aux autres moments d'intériorisation. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de mobiliser d'autres musiciens, d'autres artistes et d'autres talents sur les paroisses. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de former et d'accompagner les artistes. Dans tous les milieux artistiques, hein, pas seulement musicaux, mais quels qu'ils soient, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, sur la posture, la formation des artistes. Donc ça, le pape François a vraiment insisté là-dessus. L'accompagnement des musiciens, des chanteurs, parce qu'évidemment, c'est un milieu qui n'échappe pas aux égos. Hein, on doit apprendre à mettre son talent au service de diverses manières et travailler l'attitude dans laquelle on sert. Et je sais par expérience à quel point cet enjeu intérieur est difficile, dans quelle attitude je sers, je prie. Et donc, il y a un vrai travail aussi pour former, alors vous pouvez les appeler des animateurs, des conducteurs de louanges, mais pour les aider non seulement à faire chanter des assemblées, mais aussi à faire prier une assemblée, pas seulement à la faire chanter. Enfin, je crois que les visitations et les expérimentations sont vraiment des lieux qui nous permettent de renouveler aujourd'hui dans l'Église. Personnellement, j'ai beaucoup appris de la visite des églises évangéliques et anglicanes. L'idée n'étant pas d'exporter ces modèles dans le milieu catholique, parce qu'on baigne pas déjà dans une culture anglo-saxonne, et que aussi chaque ville, chaque contexte est différent. Mais c'est toujours bon de voir comment Dieu travaille ailleurs, ne serait-ce que pour être dans une même démarche de renouvellement. On a passé toute une année à aller au culte protestant évangélique le matin et à la messe l'après-midi. Et en fait, ça a été très riche dans notre façon de réentendre de manière nouvelle la parole de Dieu. Et je crois que l'Église a beaucoup à s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs et à permettre donc, non seulement d'aller chercher des inspirations, mais aussi de permettre une audace, des expérimentations, d'ouvrir des discussions, des possibles, aussi pour ressaisir le sens de ce qu'est la tradition, parce que je pense que si on n'est pas poussé aussi plus loin à regarder ailleurs, finalement, on ne sait pas finalement ce qui nous meut véritablement, quoi. Enfin, il y a un autre sujet qui est quand même important, qui est quand même, vous l'avez vu dans ma présentation, toute l'histoire, ce passage entre les protestants et les catholiques dans la musique nord-américaine jusqu'en France. Et je crois que l'unité se travaille et que les sensibilités, même si elles sont diverses, on a au cœur un même message et que elle est toujours à travailler, notamment par la musique. Le pape François d'ailleurs a rappelé. Insister sur ce que la formation des musiciens aujourd'hui dans l'Église catholique se fasse dans une attitude œcuménique. Et c'est quelque chose de de nouveau pour la musique liturgique, un enjeu à avoir toujours plus à cœur de travailler avec les autres églises chrétiennes. J'arrive au bout de ma présentation. Je crois que j'ai un peu dépassé l'heure. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Donc voilà un peu pour ce paysage global de la musique contemporaine issue des églises nord-américaines. Donc maintenant, si vous avez peut-être, je sais que vous avez l'habitude d'avoir des questions, un temps de questions-réponses, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai du mieux possible d'y répondre.
Marie, merci. C'est une découverte, même s'il y a des choses qu'a priori on connaissait, qu'on a déjà entendu. Me présenter comme ça, c'est pour moi une nouveauté, en tout cas, merci.
Et c'est absolument, pour moi, frappant de voir ce rapprochement entre les cultes évangéliques et cette pratique catholique de certaines paroisse, de retrouver d'ailleurs les mêmes énervements ou les mêmes admirations que lorsque je participe comme luthérienne à un culte évangélique, et de voir ces ponts finalement qui passent à travers la musique entre les différentes formes de louange et de prière. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces découvertes.
Vous pouvez poser les questions que vous souhaitez.
Merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé très stimulant. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que les chants de Thésée, dont beaucoup ont été composés d'ailleurs par des compositeurs catholiques comme Jacques Berthier, etc., est-ce qu'ils n'irriguent plus les communautés catholiques aujourd'hui, ou comment ça se passe? De mon temps, ils irriguaient beaucoup les jeunes, la jeunesse, on va dire. Voilà.
Alors, c'est intéressant que vous en parliez. En fait, j'avais prévu d'en parler un petit peu dans ma présentation, mais prise par le temps, j'ai laissé un peu la communauté de Thésée de côté. En fait, c'est assez drôle parce que quand j'ai fait mes recherches sur la musique évangélique américaine, une des premières inspirations qu'il cite, c'est les chants de Thésée. On est dans des chants, assez répétitifs, simples, avec des boucles d'accords, qui tournent, avec des paroles issues directement de la parole de Dieu ou des grands saints, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que même les évangéliques se réfèrent dans leur histoire à la communauté de Thésée. Donc c'était pour moi une découverte hein, dans ces recherches. Je vois que ça a pu, cette communauté de Thésée a pu même rejoindre voilà, ces églises nord-américaines. Aujourd'hui, non, je pense que ça continue. Hein, ça continue vraiment de parler aux jeunes. Alors, est-ce qu'il y a autant de jeunes qui vont à Thésée aujourd'hui qu'avant? Enfin, ça, j'en sais trop rien. Mais pour le coup, moi-même, j'en amène encore à Thésée chaque année, hein, des lycéens. Et qui sont énormément touchés par ce recueillement, par ces chants méditatifs. Donc, je crois que voilà, cette expérience, elle continue encore de toucher des jeunes protestants et catholiques aujourd'hui en France. Alors, c'est vrai que de fait, malheureusement, il y a aussi comment dire, beaucoup moins en moins de jeunes catholiques hein, dans l'Église catholique. Donc, il y en a de moins en moins qui vont à Thésée, de fait. Mais je crois que c'est quand même un lieu où, encore, et il y en a quand même assez peu, on peut amener des jeunes et les amener à faire aussi une première rencontre avec Dieu, voilà, qui passe notamment par ses chants. Hein, mais voilà, beaucoup de jeunes peuvent, pas forcément très croyants, qui sont voilà, aussi à la porte de la foi, vont se sentir rejoints encore aujourd'hui par Thésée, quoi. Donc... Enfin, moi, je le vois encore voilà, très récemment dans les jeunes que j'amène là-bas.
J'avais une question. Bon, bonjour, oui. Merci. Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes dont vous avez la charge, en quelque sorte? Dans votre nouveau boulot à Angers, vous êtes responsable des jeunes. Donc, est-ce que vous leur faites du Glorious? Comment vous y prenez?
Alors, c'est un peu particulier parce que je suis pas directement en contact avec les jeunes. Sauf dans des camps voilà, qu'on organise, comme voilà, des gros camps. On emmène notamment 500 collégiens à Lourdes ou voilà, une centaine de lycéens à Thésée. Moi, je vais vraiment être plutôt en lien avec les animateurs de jeunes qui sont sur le terrain, directement avec les jeunes. Et je vais, on va dire, participer à leur formation, à voilà, à voir comment on réfléchit ensemble à la manière d'aborder les jeunes, de toucher les jeunes aujourd'hui. Donc ça va être plus mon boulot aujourd'hui. Je vais être, on va dire, moins directement avec le terrain. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir aussi mon activité musicale à côté qui me permet voilà, d'être plus en prise avec les jeunes directement.
Alors je voulais intervenir. Donc vous remerciez pour la qualité de votre conférence et la qualité de l'audition. Donc c'est très important. Donc moi j'ai été très séduit par les musiques évangélistes, bien sûr, hein, même par les musiques de Thésée, les musiques qu'on a entendues, les musiques de rock, c'est formidable. Hein. Mais j'ai un mec quand même, et duquel va déboucher une question, parce que bon moi je n'y voyais pas d'ombrage à ce que je vais dire, mais ce que j'entends, c'est de la musique c'est de la musique de consommation, c'est de la musique de tous les jours. C'est alors ma question est la suivante: est-ce que c'est une musique qui va vous servir, qui sert d'appât, je dirais, on va chercher le poisson, on le récupère avec sa propre culture pour l'emmener ailleurs? Et cet ailleurs, pour moi, c'est ce qui émerge de la musique sacrée et de la musique savante, plus exactement. Parce qu'on a des compositeurs contemporains tels que Arvo Pärt, bon, Penderecki est décédé, Messiaen est décédé. C'était des musiques, mais on les écoutait, on était mais transformés, transfigurés. Moi, je ne suis pas transfiguré par cette musique. Je l'écoute, c'est gai, c'est beau, c'est formidable dans l'instant, mais je ne l'emmène pas avec moi après. Elle ne me transporte pas, si vous voulez. Bon, je ne suis pas de confession catholique non plus, donc ma position n'est peut-être pas la même. Après, je ne sais pas exactement comment ça se s'insère dans le culte, dans le rituel et dans le culte. Je pense que c'est... Il n'y a pas que de la musique, il y a aussi le rituel, les prières, les sermons, etc. Hein, voilà, c'est un petit peu où est-ce que vous allez après avec cette musique?
Alors, voilà, ma question est Merci beaucoup. Merci. Votre question est intéressante parce que c'est souvent une, voilà, une critique qui est faite à la worship music et à la pop en général. Alors c'est vrai, la pop, hein, la worship.
Ça n'enlève rien à la beauté de la musique. Hein.
Oui, oui, non mais je comprends. C'est vrai que la pop, c'est une musique d'abord populaire, comme voilà, son nom l'indique, et donc elle va toucher aussi des masses, quoi, beaucoup de gens. Et c'est pour ça que elle a notamment été utilisée par les, voilà, comme j'expliquais un peu, mais par les églises évangéliques qui sont dites du réveil et de la première conversion. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été beaucoup dans les églises comme Hillsong, mais même à Lyon Centre, l'assemblée qu'on a, c'est aussi une assemblée de recommençants. Et je pense que cette musique, elle est importante aussi pour voilà, pour susciter une émotion qui rejoint peut-être celle que ces personnes connaissent habituellement, hein, en écoutant de la pop, et qui vont être un, voilà, vous disiez faire le poisson, qui vont être un lieu, on va dire, qui va rejoindre ces gens à ce moment-là. Et donc là-dessus, je pense que oui, il y a un aspect, on va dire, église du réveil, de recommençant, qui est, on va dire, qui est constitutive de ces mouvements-là et de ces églises. Je pense pas que ce soit un mal en soi. Je pense que c'est, on va dire, c'est bien qu'il puisse exister une porte d'entrée aussi pour toutes ces personnes qui redécouvrent la foi, parce que et qui peut-être écoutent aussi voilà cette musique. Alors c'est vrai que là, on va dire, la musique pop est quand même très simple, hein. Arvo Pärt, oui, on est très loin de tout ça. J'écoute aussi, hein, d'Arvo Pärt. Mais voilà, même si évidemment il y a des chants pop qui vont être un peu plus, on va dire, complexes. Et là, je vous ai fait aussi écouter des choses vraiment très simples. Mais c'est sûr, voilà, on rejoint cette catégorie de personnes. Pour autant, voilà, je crois aussi que c'est une première expérience. Et c'est pour ça que le pape François, il parlait aussi d'émotions premières. Mmh. Et je pense que toute émotion, elle est appelée aussi à être transformée, à avoir aussi une foi qui évolue, qui se nourrit d'autres influences. Moi, aujourd'hui, je chante de la worship. C'est pas la musique que je vais écouter principalement. Justement, je vais écouter beaucoup de classiques contemporains, des choses qui vont m'inspirer par ailleurs, très peu de chants aussi, beaucoup plus de musique seule, on va dire instrumentale, que de chants, voilà, mais et qui vont aussi me parler dans ma foi, hein. J'adore passer des temps dans des monastères, justement, à être, on va dire, à grandir avec des chants qui sont pas ce que je chante, qui sont très différents et qui m'apportent autre chose. Et je pense que voilà, chaque personne dans sa vie de foi évolue avec cet univers musical qui évolue lui-même, et que c'est peut-être, en tout cas, il y a un enjeu quand même, je crois, à rejoindre des personnes qui recommencent et qui sont loin, loin, loin de tout ça et de la musique sacrée.
J'avais effectivement, vous avez repris la pêche au poisson, et j'avais utilisé cette expression parce que quand j'étais enseignant en musique, et donc mes élèves, pour les emmener à Bach ou à Beethoven, je passais par leur musique actuelle. Donc on écoutait du rock, de la pop music, etc. Et petit à petit, il y avait dans ces morceaux-là des éléments musicaux qu'on pouvait retrouver chez Beethoven ou Bach. Et ça me permettait de les emmener de là à là. Voilà. Et c'était un petit peu le sens de ma question. Et vous y avez répondu d'une certaine manière. Merci.
Je dirais que je me rappelle un concert qu'il y a eu il y a quelques années dans le cadre de Musique et Mémoire. Oui, je ne sais plus quel est le nom du prénom de l'auteur qui était fait, c'était Negri, et qui avait repris des chansons tout à fait populaires. Et pour, c'était en latin ou en italien, je ne sais plus. Et ce qui était assez amusant dans ce concert, c'est que, alors c'était des concerts de classement d'époque, etc., c'était tout à fait classique, mais il y avait une ambiance dans l'église qui n'était pas du tout la même que celle des autres concerts. C'était beaucoup moins compassé, comme si les personnes étaient un peu saisies par cette musique populaire. Et qui était une musique religieuse. Donc, et ça, je ne sais plus, c'est du 16e ou 16e siècle, quelque chose de ce genre-là. Donc, c'était assez surprenant. Et ça revient peut-être un petit peu de repasser par la pop. Je veux dire, c'était la musique de l'époque, mais qui a été mise au service du culte religieux, quoi.
Parce que, si vous voulez, oui, parce qu'en fait, le fond de ma question, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de banaliser le sentiment religieux et la grandeur divine à travers ces musiques qui sont finalement populaires et puis quotidienne et profane. Voilà, c'était un petit peu aussi c'est le sens de ma question.
Alors pour répondre un peu aux deux, enfin, il y a votre question et puis il y a votre voilà votre réflexion sur la musique populaire. Tout d'abord, en fait, même si certes il y a eu la musique, enfin les reprises dans les années 60, reprendre des chants populaires, c'est pas du tout nouveau dans l'Église. Hein. Luther a repris des cantiques populaires lui-même. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort au XVIIe siècle reprenait des chants populaires pour faire venir des gens à la messe. Donc c'est ça arrive à différents moments de l'histoire de l'Église. Voilà, ça, c'est un premier point qui est quand même intéressant. Mm-hmm. Et d'autre part, est-ce qu'on arrive à une banalisation du sentiment religieux? Moi, je dis que ça se vérifie par la foi, en fait. C'est-à-dire que oui, en soi, on peut se dire, dans une première peut-être expérience un peu superficielle de ces cultes, finalement, où est-ce que ça m'a nourri spirituellement? Moi, c'est vraiment sur du long terme, et c'est pour ça que c'est plus difficile d'en mesurer l'impact, mais en fréquentant ces personnes aussi, peut-être des églises évangéliques, et en voyant aussi à quel point leur foi était ancrée, profonde, et me parlait, que j'ai pu voir que c'était pas seulement un sentiment, en fait, et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus... en tout cas, il y avait la grandeur divine qui s'était développée, donc je pense que ça demande... tout simplement à connaître les gens et à connaître leur parcours de foi, à voir comment ces églises, justement, elles ne s'arrêtent pas aussi à cette émotion première, mais en fait, quels vont être les fruits hein, dans la communauté, la charité, l'espérance, enfin, plein de choses, des actions concrètes aussi, comment va grandir la vie fraternelle, et je pense que ça va être sur du long terme que ça se vérifie.
Ça crée un appel.
Marie, l'expérience qui a eu lieu à Lyon-Saint, il y a d'autres personnes dans l'Église catholique qui ont proposé de l'expérimenter ailleurs.
Alors pour le coup, oui, on va dire de manière moins... va y avoir des groupes. Hein. Je sais que par exemple le groupe Open a été, appelé par le diocèse de Nanterre pour animer des messes notamment à Boulogne sur un peu ce même modèle. L'idée, je pense que c'était vraiment pas, même pour Lyon-Centre, d'exporter un modèle. L'idée derrière, notamment par les chants, hein, mais c'était aussi de, et je pense que c'est ça ce qui a peut-être interrogé plus les paroisses, de dire attention, réfléchissez à la vision que vous voulez de votre paroisse. Parce que c'est vrai que souvent, on a des paroisses avec plein d'activités, ça fait des années, des décennies qu'on reproduit un peu des schémas sans s'interroger finalement sur ce qui nous fait vivre en fait, et sur le besoin des gens, sur la façon de rejoindre une population, donc là un quartier un peu renouveau, enfin nouveau à Lyon, notamment c'est le cas à Sainte-Blandine. Et je pense que cette, la démarche de Lyon-Centre dans ce qui est de vraiment, chercher une vision, hein, celle-ci, elle a pu être, exportée. Et aujourd'hui, je vois, notamment aussi grâce aux Anglicans et au Parcours Alpha, qu'il y a de plus en plus de paroisses, d'équipes paroissiales, qui sont dans cette démarche, de s'interroger sur leur renouveau pastoral, sur leur vision. Et ça va, alors ça peut passer par la musique, mais pas que, en fait. Ça, c'est assez récent. C'est vraiment ces dernières années qu'on voit ça arriver.
Mais Lyon est aussi un lieu connu pour les rencontres entre les différentes églises catholiques et protestantes. Est-ce que Sainte-Blandine était partie prenante de cet œcuménisme lyonnais et de quelle façon?
Alors de fait, oui, il y a eu des liens, alors d'une part, parce que Lyon-Centre, on s'intéressait vraiment à toutes ces églises évangéliques, hein, qui étaient Hillsong ou HTB à Londres. Mais il y a eu un travail de collaboration avec les églises locales, notamment l'église anglicane ou l'église Hillsong de Lyon. Hein, et lors de rassemblements, alors l'église Lyon-Centre organise une conférence chaque année, où c'est 2 jours de formation, de prédication, de retraite, où là, il y a systématiquement des intervenants catholiques et protestants. Et donc, voilà, ça a fait des ponts, entre guillemets, entre les églises locales.
Oui, alors vous parlez là des évangéliques et des anglicans, mais qu'en est-il de l'église protestante unie, qui a quand même plusieurs paroisses assez vivantes, me semble-t-il, sur Lyon?
Oui, alors là, je dois vous dire que je ne connais pas forcément. Alors, on a eu des liens avec l'église protestante unie hein, dans tous ses rassemblements, notamment le pasteur Gilles Boucomont qui est venu prêcher, ou d'autres pasteurs issus de l'église réformée. Hein. On a même des musiciens, alors là pour le coup c'est Dan Glorious, mais qui sont eux-mêmes issus de ces églises unies. Donc les liens se font quand même. Alors localement entre les églises de Lyon et l'église Sainte-Blandine, je peux pas trop vous répondre.
C'est une question que je me pose qui dépasse un peu aussi la musique, mais par rapport à certaines questions qui avaient déjà été évoquées sur justement la fonction de cette musique. Je crois que j'ai mis un peu de temps aussi à voir quel sens elle pouvait avoir dans ma vie de prière, et j'ai été assez frappée de voir que peut-être que plus qu'une musique qui procure un sentiment religieux, comme ça a été évoqué, c'est pour moi une manière d'ancrer corporellement des paroles bibliques ou des paroles divines. Et je trouve que du coup, en ce sens-là, cette musique peut avoir un peu le même rôle que les psaumes qui sont chantés par les religieux, ou que les chants de Thésée qui entrent très vite dans la mémoire, mais aussi dans une mémoire corporelle. Et voilà, enfin, je trouvais que ça c'était assez intéressant. Et peut-être du coup la question que j'avais qui peut être en lien, je trouvais que c'était intéressant que tu rappelles que finalement il y a des chants de pop louange aux États-Unis qui deviennent justement des chants populaires que même des non-chrétiens vont chanter. Et du coup, je trouve que bien souvent, on s'interroge sur comment est-ce que le profane colonise le sacré. On voit quels peuvent être les dégâts à écouter de la musique qui porte des messages violents. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger dans l'autre sens sur la manière dont le sacré ou la foi peut coloniser l'espace profane en transmettant des paroles qui, même pour des non-croyants, peut faire sens justement par le biais de cette musique qui est écoutée par tous. Enfin voilà, c'était plutôt sur cet aspect large de comment est-ce que le sacré peut, ou le divin, ou des paroles divines peuvent prendre place dans un espace profane, notamment par cette musique.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même culture que les cultures américaines où entre guillemets parler de sa foi est moins un problème. Comme je l'ai un peu expliqué, mais il y a des frontières qui sont extrêmement poreuses entre ce monde profane et sacré. Nous en France, on n'est pas du tout dans cette réalité là. Alors certes, on va pouvoir avoir des concerts de musique sacrée. Alors là, je parle pas forcément des paroles, hein, parce que voilà, ça c'est autre chose. Mais je suis pas sûre que les gens les rattachent forcément à une expérience de foi. Après, en ce qui concerne les paroles, alors c'est vrai que dans tout ce qui est musique, on va dire de la worship, ou même comme le rappelait aussi Vatican II, hein, on a une insistance sur la parole de Dieu. On va avoir des chants très kérigmatiques, c'est-à-dire qui vont vraiment annoncer la foi, Jésus, de manière très forte, très simple aussi. Je sais pas dans quelle manière quelqu'un de non-croyant prend ça, entre guillemets, en pleine face, quoi. Alors c'est vrai que, moi j'ai toujours été quand même assez surprise. Parce que évidemment, alors ça c'est plus mon histoire personnelle, mais j'ai été aussi en fac avec forcément beaucoup de non-croyants. Hein. Souvent j'étais dans des classes où j'étais la seule chrétienne, et donc les gens, les autres étudiants savaient ce que je faisais par ailleurs. Et souvent, j'étais assez réfractaire à l'idée de leur faire écouter ce que je chantais. Mais de toute façon, ils googlisent tout le monde. Et donc, très vite, ils sont tombés sur le Notre Père, sur d'autres chansons. Et donc, ça pouvait me faire peur. Et en même temps, malgré tout, j'ai eu des mails de collègues plus tard ou d'étudiants qui me disaient qu'ils avaient été touchés par ces chants, par ces paroles. Et ça engendrait tout de suite des discussions sur la foi, sur « Ah, en fait, j'ai été baptisée, j'ai laissé ma foi de côté, mais ce chant, ça m'a rappelé que j'avais quelque chose en moi. » Et donc, ça a amené d'autres discussions. Donc, je crois que faut peut-être pas, en effet, avoir peur, quelquefois, de les partager, de montrer ces chants qui ont des paroles pourtant très, très charismatiques et très, très simples, parce que on ne sait pas aussi le nom de Jésus, mais quel impact il peut avoir dans la vie des gens et dans ce qu'il peut, déjà rappeler au niveau de toute leur histoire, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. mais c'est petit à petit, je fais que l'expérience que finalement, des non-croyants peuvent être quand même touchés par cette musique. Est-ce qu'il y a d'autres...
Encore une autre question par rapport à ce qui constitue la musique. J'avais remarqué en particulier dans les chants du renouveau, c'est beaucoup des chants mineurs avec un rythme qui est quand même assez soutenu. Et la plupart des chants, je trouve, ceux que j'ai fait chanter, je les ai trouvés en mineur, étaient en mode mineur. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme astuce, entre guillemets, ou comme typique, comme caractéristique de cette musique pour qu'elle arrive à toucher un public plus jeune? C'est peut-être le propre de la pop.
Oui.
Parce que je pense qu'à vos partes, aussi beau que ça soit, par rapport à mes enfants, je pense que ça leur passera par-dessus la tête. Et par contre, la pop va pas leur passer par-dessus la tête. Je ne sais pas, musicalement, qu'est-ce qu'il y a de pas derrière? Si on peut le définir.
C'est vrai que je parlais des accords magiques. Alors, c'est vrai que vous disiez qu'il y avait pas mal de chants mineurs dans les chants du renouveau charismatique. Je pense notamment à des chants qui sont issus aussi de la tradition hébraïque, qui ont été beaucoup importés. Alors, je sais pas, on va dire Grande et Merveilleuse. Je sais pas si vous connaissez ce genre de chant qui reprend là pour le coup des accords plutôt hébraïque, juif, la communauté des béatitudes a énormément fait ça dans les années 80. Là, dans la pop, on est plutôt, on est plutôt dans des gammes majeures. Hein, ce que j'appelle ce qu'on appelle les accords magiques, c'est en fait, en pop, c'est des degrés. je suis pas musicologue, mais c'est des degrés dans une gamme qui vont faire que c'est flatteur à l'oreille. Et on va avoir des boucles d'accords. Par exemple, si on est en do, ça va être do, sol, la mineur, fa. Et donc, cette boucle d'accords-là, assez flatteuse à l'oreille, va faire que, finalement, ça marche. Et en fait, c'est pour ça que plein de chants pop, vous pouvez commencer un chant, enchaîner avec un autre chant, et encore un autre chant, et encore un autre, et sans que ça s'arrête, parce qu'on est toujours dans cette même boucle d'accords qui est assez... flatteuse à l'oreille. Elle a été utilisée en pop, mais pas que. Hein. Avant, même dans certains morceaux classiques, ça a pu être aussi utilisé à certains moments. Toute cette boucle mélodique. Mais j'ai pas vraiment de raison. Alors peut-être que d'autres personnes peuvent m'éclairer pour savoir pourquoi est-ce que c'est plus flatteur à l'oreille que d'autres. Il y a quelque chose d'assez simple là-dedans.
Si je peux me permettre. Mais... les accords magiques, il suffit de deux accords simplement pour que ça devienne magique. Il suffit même d'un seul accord. C'est surtout le rythme qui va, le timbre déjà. Le timbre, c'est très important, ce qui va marquer la musique de quelqu'un ou d'un chanteur, c'est sa voix surtout. Et donc le timbre est très important. Un ou deux accords, des fois, ça suffit. Vous savez, des chanteurs français, ils ont deux accords et ils tiennent 10 minutes avec. Ce qui fait la richesse, en fait, c'est l'imaginaire mélodique et rythmique. Voilà, la variété. Mais on reste toujours dans le même cadre. Alors, c'est magique un peu parce que on n'est pas perdu, on est un peu dans un cocon. Alors on peut avoir trois accords, et comme vous dites, effectivement, ça tourne en boucle, et ça a quelque chose de magique. Hein. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais oui. on va rester simple. Hein. Et je profite, sans vouloir être trop long, de rebondir sur la remarque qu'a fait Marion Blanchet, que j'ai beaucoup aimée, et puis votre réponse, sur le fait de passer d'investir le profane du sacré. Ça, je trouve ça très joli. Et je trouve que y a une telle séparation entre l'Église et l'État. Quand je dis l'Église, c'est toutes les religions, hein, bien sûr. Et le profane a mis de côté un petit peu le religieux. Et le religieux a un rôle fondamental dans la société. Et les islamistes, là je pars très loin, les musulmans sont repliés sur eux alors que la République les appelle, et les chrétiens notamment sont un petit peu repliés sur eux alors qu'ils devraient aller vers la République. Et je trouve que votre démarche, elle est très positive, parce que elle emmène les gens du profane vers le religieux. Voilà. C'est la remarque que je voulais faire. Mais la musique, dans la musique, tout est magique dans la musique. À partir du moment où elle est inspirée par la puissance éternelle.
Une question pratique, Marie, quand j'étais à Lyon, les futurs prêtres, dont les nôtres, ont été formés à votre musique.
Pardon, j'ai pas bien entendu. Si,
les prêtres de notre région, beaucoup, étaient formés à Lyon. Bon, on les voit remonter. La question que je me pense, c'est qu'ils ont été en contact avec votre musique, ou avec l'école de formation que vous aviez, ou des choses comme ça. Est-ce que de temps en temps, vous les voyez descendre
Les séminaristes.
Oui, ils étaient au-dessus à Saint-Hérémy.
Oui, bah de fait, du temps, enfin, entre guillemets, quand Lyon-Centre était un groupe de prière, mais même quand après c'est devenu une paroisse, c'était pas rare que les séminaristes descendent la messe du dimanche soir. Quoi. Donc ils ont forcément, s'ils avaient envie, hein, c'était pas obligatoire, ils ont forcément entendu parler ou découvert Lyon-Centre. Quoi. Ça, c'est sûr. On les voyait en tout cas régulièrement. Il y a même certains séminaristes, alors je ne sais pas s'ils étaient de Belfort, hein, mais qui faisaient partie de l'équipe logistique ou de l'équipe d'accueil de ces messes-là. Quoi.
D'accord. Le temps tourne. Est-ce que vous avez encore une ou deux...
Est-ce que les prêtres catholiques ont une formation musicale et vocale?
Bonne question. Le problème, c'est que quelquefois, alors je pense pas que ça fasse l'objet de cours au séminaire, en particulièrement. Je sais que ils connaissent très bien la liturgie des heures. Ils vont passer beaucoup de temps à chanter en polyphonie, toute la liturgie des heures. Je ne crois pas pour autant, on va dire que c'est l'habitude et on va dire qui va faire que ils vont s'améliorer, mais ils n'ont pas forcément de formation musicale, non. D'ailleurs, ça leur ferait peut-être du bien à certains moments. Parce que quand ils sont prêtres, ils sont quand même amenés à chanter d'une manière ou d'une autre, quelquefois dans des réponses, dans des acclamations. Généralement, on leur apprend à chanter juste, mais ils savent pas poser leur voix ou pour une assemblée, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant, hein, pour le coup, quand on va dans des cultes évangéliques. Alors, je ne sais pas si les pasteurs savent bien chanter, hein, mais la manière dont ils utilisent leur voix, alors je pense que ça, comment dire, c'est pas seulement la musique, hein, là-dessus, c'est vraiment le théâtre aussi qui doit jouer, mais est beaucoup plus travaillé, la mise en scène, que chez les prêtres catholiques, alors que je pense que tout le travail d'accentuation, d'intonation, de pose, d'assise vocale, quand ils font des homélies, elles devraient être vraiment travaillées, on s'endormirait peut-être moins quelquefois. pardon. Mais je pense que ça joue, voilà, de tout. Il y a pas seulement le fond de ce qu'ils disent, mais voilà toute la forme. Et voilà, et les homélies mériteraient, à mon sens, toute la prédication, un vrai travail vocal. Quoi.
Mais ce que vous dites là me fait penser aussi que dans la formation des enseignants, puisque j'étais enseignante, cet aspect-là de travail de la voix, de la posée, etc., est complètement ignoré. Et que même quand je me rappelle qu'il y avait un plan académique une fois qui proposait une formation dans ce sens-là, que j'ai demandé au directeur de mon établissement, elle m'a été refusée parce que de toute façon, les enseignants n'avaient pas besoin de connaissances de ce genre. Enfin, indépendamment du chant, le problème de la voix pour un enseignant me paraît quand même fondamental. Et c'est, enfin, je ne sais pas comment c'est maintenant, Philippe, toi qui es plus dans le coup, mais à l'époque.
Oui, j'ai suivi un stage de 60 heures. Marie-Christine, indépendamment, j'avais suivi un stage de 60 heures il y a une dizaine d'années pour apprendre à connaître sa voix. Et je l'ai demandé l'année dernière, de 60 heures, c'était passé à 3 heures, une matinée.
C'est un peu court. Ouais.
Ah oui, c'est terrible. Hein.
Maintenant, dans la formation des pasteurs, pour ce qui est de la faculté de Strasbourg, de théologie protestante de Strasbourg, il y a un cours de musicologie. Mais pas, enfin, à ma connaissance, pas
de technique vocale.
Oui, enfin, il y a une chorale, si on veut y participer, c'est tout à fait facultatif. Alors, je ne sais pas si dans la formation ensuite pratique, dans les années de stage qui prépare au pastorat, il y a peut-être un peu plus de choses. Enfin, ceci dit, la musicologie, connaître effectivement quelques beaux morceaux et quelques règles qui les ont régies, c'est extrêmement intéressant pour entrer ensuite dans une liturgie, quelle qu'elle soit.
Voilà, le temps passe. Hein, Marie, on vous remercie. Je fais juste une petite remarque, elle a un peu piège. Quand on avait entendu Michel, on avait entendu une voix superbe, hein, qui était celle donc du rabbin. On avait entendu, quand Béatrice était là, on avait entendu chanter aussi. Vous chantez encore?
Oui. Pardon, bah du coup, c'est vrai que j'ai pas passé. Enfin, vous m'avez entendu dans le Notre Père, mais il y a eu des morceaux plus récents. Voilà, qu'on a enregistré avec Glorious. Je pourrais vous envoyer des liens, mais il suffit que vous tapiez dans YouTube, où là, vous allez pouvoir m'entendre chanter. Voilà, notamment, il y a deux chants qu'on... En 2018, j'ai chanté dans un chant qui s'appelle « Pour moi, tu l'as fait », donc vous pourrez écouter. Et là, en 2020, on a enregistré un EP, un disque, et je chante un chant qui s'appelle « Le fils prodigue ». Donc vous pouvez entendre, vous pouvez m'entendre chanter sur ces chants-là. Quoi.
Sur YouTube.
Mais là, je ne vais pas faire de démonstration maintenant parce que vraiment sur Zoom, ce serait pas idéal.